Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon.
De mots en autres,
papier buvard, vous consolez, laissez brûler.
On reçoit une femme que l'on aime entendre, que l'on aime voir. Vous savez, il y a des femmes, il y a une femme, et celle-ci, la télévision nous l'envoie, et nos foyers la reçoivent avec gracieuseté, affection. Elle nous envoie à la fois une voix, un regard, une image. C'est elle, Mireille Dumas, rencontre inoubliable, vie privée, vie publique. Tout ça paraît au Cherche Midi. C'est un très beau livre, rempli d'émotions, émouvant. La découverte d'êtres que l'on a côtoyés à travers des revues, des hebdomadaires, à travers des films, à travers des concerts. Elle, elle en parle, elle les a reçus. Elle est déshabillée, mais avec correction. Mireille Dumas, mon invitée. Mais avant même qu'elle ne me parle, je veux lui offrir une voix d'une femme qu'elle aurait peut-être aimé rencontrer.
Oh, c'est magnifique, c'est la voix de la Callas chantant.
Voilà.
La Norma de Bellini.
Le Casta Diva.
Casta Diva, oui, bien sûr, c'est magnifique.
Voilà. Vous auriez aimé la rencontrer, Mireille Dumas.
Oui, ben et j'aime tellement cet immense artiste.
Oui.
Que, vous savez, d'ailleurs, ce que vous avez choisi, c'est ce qui accompagne l'un des tout premiers films que j'ai fait sur Alice Sapritch retournant en Arménie. En Turquie. Et sur son voyage de retour en Turquie, c'était exactement le morceau que j'avais choisi.
Alors, moi, je vais vous dire une chose, Mireille. J'ai eu le bonheur de la rencontrer grâce à deux hommes, Jacques Bourgeois, le grand spécialiste d'opéra, et son impresario, Michel Gloz.
Oui.
Quand je suis allé rue Georges Mendel rencontrer cette femme, ma voix n'était plus ma voix. J'étais hypnotisé par cette femme. Elle était impressionnante, belle, une gentillesse que j'oublierai jamais. Et je me dis toujours que dans ma vie, j'ai une anthologie de rencontres, mais la Callas, c'est le sommet.
Vous avez raison. Vous savez, les grandes voix, c'est ce qui transporte justement l'âme. Ça réconcilie tout. Vous pouvez être de n'importe quel pays. Vous pouvez penser des choses absolues, totalement à l'opposé. La voix rassemble.
Mireille Dumas, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Confidence pour confidence. J'aime les voix et j'aime les femmes qui savent parler. Et vous êtes une femme avec une autre pour laquelle je ne vais pas dire que je vous ai jumelé, mais vous allez aussi comprendre. Le travail que vous faites est impressionnant. Le travail qu'elle a eu fait à la télé était aussi impressionnant. Je veux parler d'Anne Sinclair.
Oui.
Une grande journaliste, une femme qui nous apprenait beaucoup de choses chaque dimanche soir, et puis Mireille Dumas, qui nous avait donné rendez-vous dans ses belles émissions. Et j'ai été ô combien heureux quand on diffusait Ballet Masque. Parce que là, dans cette série d'émissions, vous êtes rentré dans un compartiment tout à fait spécial. Vous nous avez dévoilé quelque chose que beaucoup de gens n'auraient pas pu le faire. Et vous avez fait ça avec une telle politesse, une telle justesse, que l'on a apprécié ces gens qui étaient vos invités et que vous avez su convaincre. Alors ma question reste, est-ce que le mot favorise l'image ou est-ce que l'image se marie bien au mot?
C'est toute la question. C'est une jolie dialectique à laquelle j'ai essayé de répondre par ces documentaires, par ces émissions. Moi, je viens de l'écrit. Alors, quand vous dites écrit, il y a le mot cri, d'ailleurs. Paradoxalement, et l'écriture et le cri. Mais je viens d'abord de l'écriture où je cherchais en tant que journaliste de presse écrite et en écrivant d'ailleurs quelques livres, modestement tous ces livres, le mot exact, le mot juste. Et quand je suis devenue intervieweuse, quand je suis passée à la réalisation de documentaires, que j'ai en tout cas tendu le micro vers mes concitoyens, j'ai essayé de faire que la parole, cette parole, soit aussi forte qu'un mot écrit. C'était cela. Et que peut-être, et parfois, que l'image remplace le mot, mais l'image dans le silence, dans l'hésitation, l'image dans la gestuelle qui dit autant que le mot, et le silence parfois dit encore plus d'ailleurs. Et donc c'est cette alchimie du mot et de l'image qui est pour moi enfin importante, et c'est pour ça que souvent j'ai dit que parfois je mettais même le documentaire encore plus haut qu'un plateau de télévision, et pourtant il y a aussi l'image. L'image peut dire de manière formidable encore plus que le mot. Et je pense à certaines séquences, comme dans un film, vous savez, où on se passe du mot. Et puis parfois, vous vous rendez compte, et moi c'est toute la télévision que j'ai faite, c'est que le mot peut dire tellement, tellement, et on peut se passer de mise en scène aussi, être dans un face-à-face, et que ce face-à-face soit plus fort que tout. Donc tout est possible.
Alors, cette question, Mireille Dumas, quand on lit le livre et tous ces personnages que vous rencontrez, d'où est née la fascination que vous portez aux humains ?
C'est ce que j'ai voulu raconter dans ce petit avant-propos, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un livre sur moi, même si je me raconte en filigrane de toute façon tout au long de ces entretiens. Mais je pense que ça vient comme chacun d'entre nous. D'ailleurs, très souvent, les choses s'inscrivent dans l'enfance. Et moi, cette enfance, j'ai eu l'impression, et c'est ce que j'écris, c'est d'être, même s'il y avait des tas de moments joyeux, même si ma mère étant mon institutrice, parce que mon père était parti très tôt, décédé, j'avais 3 ans et demi, même si ma mère nous enseignait beaucoup de choses, on parlait de beaucoup de choses, elle était très en avance même sur son temps, pour autant, tout ce qui était de l'ordre du sentiment, ça ne se disait pas. Il n'y avait ni mot d'amour, ni mot pour dire la souffrance. On n'en parlait pas, comme si parler de la souffrance allait raviver justement des douleurs. Et les mots d'amour étaient plutôt réservés, au langage amoureux. Et j'ai grandi dans cette école, dans cette maison qui jouxtait l'école. On ouvrait une porte, on passait de la maison à l'école. Il y avait la grande cour d'école. Et voilà, dans cet univers clos où j'étais vraiment, comme j'ai tenté de l'écrire, justement pour donner une image à cette sensation, c'est vraiment à l'écoute des bruissements de la maison. C'est dans un monde quand même où il y avait beaucoup de silence. Et pourtant, il y avait beaucoup de disputes entre enfants aussi, puisque j'étais dans une famille, nous étions nombreux, 6 enfants. C'est quand même ça qui me marque. Et avec cette envie, c'était un petit village. L'école était située, je disais, entre l'église du village et à la fin de la route, c'était quand même le cimetière. Et au-delà, évidemment, les champs de blé, les grands champs de blé, que nous parcourions à bicyclette. Mais pour autant, j'avais l'impression d'un univers qui était assez étroit. Et je me disais que lorsque je serais plus grande, je parcourrais le monde à la découverte des autres dans toutes leurs différences. C'était ça, cette envie d'aller au-devant des autres et de rencontrer tous les autres.
Est-ce que le duo mère-fille, Mireille Dumas, c'est là qu'est né tout cet enrichissement que vous portez à l'écran ?
Il en fait partie. Je ne sais pas s'il est né là. Je pense qu'il est né, de l'absence du père. Il est né de celle qui a été la femme de ma vie, ma mère, qui a été mon institutrice, qui a été ma mère, qui a fait fonction de père, qui est devenue comme une sœur et qui, sur la fin de sa vie, est devenue comme ma fille, puisque je me suis près d'elle et jusqu'au bout, elle était près de moi. On peut le dire dans les deux sens, et ça a été une expérience magnifique. Puis il y a eu la disparition des grands-parents. Il y a eu beaucoup d'absents, beaucoup de disparitions tout au long de ma vie, de mon beau-fils, oui, Antoine. Et il y a eu aussi de grands bonheurs, évidemment, de rencontrer les autres, c'est ce qui vous enrichit. Et je dirais que c'est tout cela que vous portez, que moi, en tout cas, j'ai apporté à l'antenne. À l'antenne, je pense que j'ai été celle que je suis vraiment. Quand je me retourne, je me dis, bon, je ne me suis pas trop trahie, je n'ai pas trahi la petite fille que j'étais, les valeurs que ma mère m'a transmise, et j'y suis allée avec ce que j'avais au fond du cœur. J'ai essayé de le transmettre aux autres, et les autres m'ont transmis aussi. C'est un échange, et je pense que c'est cet échange qui a fait que nous nous sommes enrichis mutuellement, ceux que j'ai interviewés. Moi, j'ai apporté ce que j'étais. Je le dirais dans ce sens-là, vous voyez. Et je pense que c'est cette expérience de l'humain que nous avons échangée.
Quand on lit le livre, quand on vous regarde à la télé, 40 ans de télévision, c'est énorme. J'ai envie de vous demander, ce métier, vous le faites avec passion, mais il y a une part de la foi aussi, quelque part.
Oui, totalement, totalement. Je le fais avec passion, avec curiosité. Même pour être allé dans des, j'allais dire, dans certaines noirceurs de tout un chacun, parce qu'il m'est arrivé de plonger aussi dans certaines histoires sombres. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui porte un individu. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie lumineuse des êtres, et même s'il y a des parties sombres, et c'est cette foi. Je le répète, même si l'homme est capable d'atrocités, mais j'ai cette foi de la transcendance d'un être humain, d'un homme qui peut effectivement se transcender.
Alors, en quatrième de couverture, il est marqué, et je vous lis, « Aller à la rencontre des autres, de tous les autres, était une nécessité pour moi, avec cette urgence d'embrasser, non pas 100, mais 1000 vies. » Des milliers de vies et d'expériences, car une seule vie, c'est beaucoup et trop peu à la fois. Alors, Mireille Dumas, comment vous appréhendez à la fois les chocs et les blessures des autres ?
Les chocs et les blessures des autres me heurtent ma sensibilité d'être humain. Je les reçois en plein cœur. Je sais, par exemple, après 4 années de ballet masque, je me sentais épuisée. Et l'émission ne s'est pas arrêtée à cause de moi, mais quand elle s'est arrêtée, en fait, j'ai marqué une pause, non voulue par moi, je le répète, mais en fait, je me suis rechargée. On m'a beaucoup donné, mais je donnais aussi beaucoup. Ma sensibilité est mise à mal, mais heureusement, c'est à ce moment-là, le relais est pris par... Le professionnalisme, il est pris par la journaliste que je suis, qui va mener l'entretien. Je vais reprendre le dessus parce que face à quelqu'un en plus qui me fait confiance dans des douleurs extrêmes, qui parfois est au bord de la rupture ou au bord des larmes, je me dois de rester digne, je me dois de l'accompagner et de ne pas, moi, m'écrouler. C'est, je pense, que ce qui permet de résister justement à ces blessures et à ces chocs, c'est de vouloir transmettre et de pouvoir expliquer aux autres un peu ce qui se passe, de pouvoir éclairer un cheminement, de pouvoir donner quelques clés, tout ça très humblement. Mais je sais que certaines émissions ont compté. Ça a pu, en tout cas, faire bouger un petit peu les lignes. Après, c'est un long cheminement. Mes émissions sont des petits cailloux sur une longue route, mais il faut absolument les semer et que d'autres les reprennent et continuent cette route. C'est quelque chose qui va servir aussi à une compréhension des autres et pour les autres.
Alors, il y a cette question, Mireille, qu'on est obligé de vous poser. Est-ce que vous choisissez un fil conducteur pour ramener à vous tous ces invités? Quand je pense à Lania, Brigitte Bardot, Carole Bouquet, quand vous les avez, qu'est-ce qui peut ressembler aux autres.
Dans le livre, vous voulez dire, pourquoi ce choix de personnalité?
Oui, oui.
Ce qui a dicté ce choix, d'abord, c'était effectivement des témoignages qui semblaient se répondre. Ce sont des parcours que je trouvais passionnants. Je n'aime pas le mot exemplaire, mais quand même, j'ai choisi aussi des personnalités que l'on découvre, qu'on n'a pas l'habitude de voir sous ce jour. Certains qu'on croit connaître comme Danny Boone, Gad Merad, mais qui apparaissent sous un jour nouveau. D'autres qui donnent très peu d'entretien sur leur parcours comme Roberto Alagna ou d'autres, hein, Yannick Noah. Tout ce qu'il raconte là, on ne le sait pas vraiment. Donc c'est pour éclairer tout à fait autrement les personnalités. Et puis j'avais envie aussi, bien entendu, puisque certains, je me suis liée d'amitié plus ou moins proche, en tout cas avec certains d'entre eux, parce que je suis allée par exemple en Arménie avec Charles Aznavour, au Cameroun avec Yannick Noah, en Algérie avec Guy Bedos.
Guy Bedos.
Donc effectivement, il y a des liens qui se tissent, qui se nouent, et la plus grande histoire d'amitié que j'ai eue proche, c'est avec Guy Bedos. Parfois, c'est une rencontre, ça se passe une fois, et ce qui se raconte me semble tellement fort, comme avec Jean-Louis Trintignant, comme avec Bernard Giraudot, qui parle de la mort, Trintignant de la disparition des êtres chers. C'était tellement fort que j'ai eu envie de raconter cette rencontre. Et puis j'ai eu envie de raconter aussi un lien qui se crée comme ça au fil des ans et de faire découvrir aussi autrement, par exemple, Guy Bedos.
Et les personnages importants politiques par rapport aux personnages du show business, de la littérature, ou par exemple Marina Picasso, dans le fond, quelles sont les racines qui peuvent être comparables à d'autres?
Je dirais la force et la fragilité, parce que je raconte tout au long de ces entretiens, de revenir à Marina Picasso,
oui,
ou à Valéry Giscard d'Estaing, a priori, ou Guy Bedos, on en parlait tout à l'heure, Carole Bouquet, Françoise Fabian et Marina Vladi. Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes? C'est leur fragilité, leur force. C'est ce qui m'a frappé, parce que l'on soit artiste, que l'on soit politique, que l'on soit un grand sportif, enfin peu importe, ou un grand chef d'entreprise, tous ont été confrontés à un moment donné à la chute, non seulement à la chute, mais ou à rater quelque chose. Vous êtes obligé de vous remettre en cause en permanence. Quand on est artiste, on est sans arrêt remis en cause dans l'échec et ou la réussite. Et c'est cette formidable possibilité qu'ils ont en eux-mêmes, c'est de pouvoir rebondir. Ce qui m'a frappé aussi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est la résilience. C'est le métal qui est tordu et qui tout à coup peut se redresser. C'est cette image-là, la résilience sur beaucoup de ces personnalités qui ont vécu des traumatismes parfois dans l'enfance ou des grosses difficultés et puis qui, grâce à l'art, grâce au sport, arrivent à avancer et à devenir même numéro un. Ce sont des parcours de cet ordre. Alors là, on parle de personnalité parce que c'est ce livre que j'ai fait, mais les anonymes s'y retrouveront de la même façon. Nous savons que chaque jour, il y a des difficultés à dépasser qui sont d'ordre personnel. Ça peut être pour la perte d'un travail, pour un divorce, ça peut être encore plus douloureux la disparition des siens. Et je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, évidemment.
Mireille, je vais vous faire entendre une seconde voix de femme.
Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin à la fenêtre qui frissonne. Et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre, comme au théâtre. Et je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines. Plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. À l'acte de nouveau décor, j'avais rêvé un rêve fou. Tu l'exauças, nous prîmes l'avion pour des vacances à Corfou. Tu étais beau comme un Hermès, torse nu parmi les ruines.
dans l'ombre bleue des grands cyprès qui s'étageaient sur la colline. Comme au théâtre, comme au théâtre.
Voilà, c'est Cora Vauquer, bien sûr.
Ah, c'est magnifique, c'est sublime.
Quelle grande dame aussi, discrète, qui a fait une très belle carrière.
Oui, dont on parle très peu d'ailleurs.
Absolument.
Cora Vauquer.
Mireille, quand on fait le métier qui est le vôtre, quand on fait ces rencontres importantes, Mireille, avez-vous du cœur ?
Ah, est-ce que j'ai du cœur ? Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier comme je le fais si on n'a pas du, si on n'a pas du cœur. Je pense que la condition première, c'est d'aimer les autres. C'est d'aller vers l'autre sans barrière. C'est ce qui me semble essentiel d'ailleurs.
Quand on fait ce métier, quand on fait ces rencontres, quand on voit ce que nous voyons actuellement, les changements sont rapides. C'est ouais. Comme les orages. Est-ce que, à un moment, vous vous êtes dit comment on peut entraîner la jeunesse à lui faire croire des choses peut-être inexistantes? Et ça me fait énormément peur.
Actuellement, ce qui me fait peur, c'est plutôt le contraire, moi, de ce que j'ai voulu faire dans mon travail, qui était l'ouverture sur les autres, prenant en compte la différence comme une richesse. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est le repli. On en revient aux réseaux sociaux qui sont en même temps une formidable caisse de résonance puisqu'ils font avancer les choses. Mais paradoxalement, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, ça peut être dramatique et que tous les gens, et les jeunes en particulier, ont tendance à se retrouver, vous voyez, par communauté. C'est-à-dire qu'on se parle entre soi. On se parle entre soi, donc il y a un repli, on est de moins en moins curieux, on n'entend que ce qu'on veut bien entendre. Plus on se replie, plus automatiquement, ça va amener de la violence. On va se heurter de plein fouet aux autres. C'est vrai que cette violence-là fait peur, puisqu'on est dans l'affrontement des idées, on n'est plus dans le dialogue. On peut tout dire, tout se vaut, déverser tout. Est-ce que toutes les paroles se valent ? C'est une question. On n'est plus dans voyez, l'envie de comprendre. Donc ça, évidemment, que ça fait très très peur. On est dans un monde qui est de plus en plus, de toute façon, heurté. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez. C'est à l'image de la planète où il y a révolte aussi des éléments naturels, comme si la planète ne nous supportait plus. Moi, je le vois plus au niveau général. C'est préoccupant. Il y a quelque chose de préoccupant dans tout cela. Mais en même temps, je me dis que à chaque génération, on va trouver une réponse, va s'adapter à ce monde nouveau. Mais on assiste à une mutation spectaculaire, mais à laquelle on pouvait s'attendre depuis déjà, franchement... au moins une bonne vingtaine d'années.
Comment vous entendez la liberté ?
Alors là, c'est un vaste sujet, Jacques. Si on part là-dessus, on repart pour une heure. Mais je vais vous répondre assez succinctement, mais ça va donner toute ma pensée. Moi, je suis pour la liberté individuelle, vraiment, à partir du moment où elle n'entrave pas celle du voisin. C'est tout. Donc c'est vraiment une liberté individuelle, mais qui est conditionnée évidemment à la liberté collective. Sinon, c'est impossible. En revanche, oui, vouloir défendre la liberté individuelle qui est quelque chose de, vous voyez, d'inaliénable à partir du moment où c'est une conviction propre, il ne va pas en tout cas endommager les libertés publiques. Il n'y a pas de problème.
Je vais vous offrir la troisième voie. C'est encore une femme. Vous allez l'entendre. Et pourquoi j'ai choisi ça? On approche des fêtes de fin d'année et je voulais vous offrir à la fois ce chef-d'œuvre chanté par cette femme.
De bande de fourneaux, ça vous bouscule, ça vous demanderait seulement pas pardon. Ben ouais, Fauchemann, et purée. Ce soir, pardi, c'est le réveillon, on voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur, personne n'y fera attention. mailloté, ça lâchera de poivron.
Vous aimez?
Ah, c'est magnifique. Dis donc, ça ne nous rajeunit pas, ça, Jacques.
Eh oui, mais c'est le beau, va avec le beau. C'est un disque de Marie Dubas. C'est tout. Mireille, je vous ai demandé ce matin de me lire un passage. Yébedos, je le porte dans mon cœur. Il a retrouvé l'éternité. J'espère que moi, je vais le rejoindre un jour ou l'autre et nous allons nous retrouver. Alors, vous choisissez le moment que vous voulez.
Ah, qu'est-ce que je vais choisir comme moment? Alors, attendez. Si je vous lisais le tout dernier paragraphe, c'est la fin de ma rencontre avec Guy, où je raconte cette longue relation de 30 ans. Mmh. Et je dis qu'il finissait toujours ses spectacles par comédiante et tragédiante, où il disait « La vie est une comédie italienne ». Et puis, le rideau est tombé. 8 ans plus tard, Guy tirait vraiment sa révérence. Pas de pierre tombale, mais un carré de granit ocre et de terre parsemé de fleurs du maquis corse et de ses fameuses immortelles. Joe a fait construire en bordure un banc de pierre sèche à l'image de ces petits murets où les habitants de l'île aiment se retrouver pour se parler des uns des autres dans les villages. Pour tous ceux qui aimeraient continuer à converser avec lui. Guy, quant à lui, a choisi de faire graver dans un dernier clin d'œil « Je dors enfin ». Au cimetière de Lumio, pendant l'enterrement où famille et amis s'étaient réunis, je ne pouvais m'empêcher de penser aux phrases exaltées de Guy à la fin de notre entretien. La liberté de mourir dans la dignité, oui, mais d'abord la liberté de vivre dans la dignité. C'est très important et c'est lié tout ça. Par amour de la vie, de la vraie vie, que vaut cette vie? Ça sert à quoi de vivre, si ce n'est pas une vie qui se prouve, une vie qui se sert et qui sert aux autres aussi? Et il ajoutait, je suis là à plaider pour le droit de choisir sa mort devant vous, mais d'une certaine manière, moi, je voudrais l'éternité. Et il a souri.
Et oui, c'est beau, ça me touche parce que Guy représentait beaucoup de choses pour moi quand on se voyait au Salon du Livre à Nice. On se rencontrait au théâtre Tursky à Marseille. Ah. Et alors, vous savez comment il m'appelait? Ah, voilà Saint-Augustin. Voilà. Mireille, avant de nous quitter, j'ai cette question à vous poser. En 4 décennies, vous avez fait parler le petit écran. Les images, les mots, l'amour des uns des autres, le rapprochement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous qui êtes allé en Algérie, vous qui êtes allé avec Alice Sapriche dans son pays, les peuples, les religions, est-ce que la religion vous hante?
Pas du tout. La religion ne me hante pas, enfin à titre personnel. Mmh. La seule question qui pourrait venir, je dirais, me chatouiller, ce serait celle de l'existence de Dieu. Mmh. Mais les religions ne me hantent pas. Au contraire, elles finissent par même me déplaire au plus haut point. Elles peuvent devenir source de guerre. C'est plus dans ce sens-là. En tout cas, le problème, c'est que la vraie question est à la question, est-ce qu'il y a une existence supérieure? Moi, je crois que Dieu est dans l'homme. Donc, j'ai foi avant tout dans l'homme, je disais, pour le meilleur comme pour le pire, mais j'espère, ou dans l'autre sens plus exactement, qu'il sera capable du meilleur. En tout cas, l'homme est capable de se transcender, d'aller chercher quelque chose de plus important. Comme disait François Mitterrand, les forces de l'esprit, je crois vraiment à ça. Et quant aux religions, la religion, elle ne me hante pas, mais elle peut hanter mes cauchemars si tout à coup elle est source de division. C'est plutôt ça.
Ben, je suis content de vous avoir eu comme invité dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
De mots en notes. Et on va terminer avec la voix de Maria Callas pour clore cette émission qui est la vôtre, Mireille Dumas.
La voix de Maria Callas qui va nous transporter, Jacques. Voilà, merci pour tout.
Rencontre inoubliable, vie privée, vie publique, ça paraît au Cherche Midi. Je vous embrasse, Mireille.
Je vous embrasse. Au revoir.